Deuxième partie. J'ai à peine besoin de dire que je ne veux pas, même un seul instant, me plaindre du mauvais usage que le public et la presse font de ces mots. Je ne sais pas comment ils arriveraient à les employer avec justesse, étant dépourvus de toute la compréhension de tout ce qui est l'art. Je me borne à signaler le mauvais usage. Quant à l'origine du mauvais usage, quant à la signification qui se cache derrière tout cela, l'explication est des plus simples. Elle se résume dans une conception barbare de l'autorité. Elle vient de la naturelle inaptitude d'une société corrompue par l'autorité à comprendre et à apprécier l'individualisme. En un mot, elle vient de cet être monstrueux et ignorant qui s'appelle l'opinion publique, qui se montre si mauvais dans une bonne intention quand il s'évertue à diriger l'action, puis qui est infâme dans ses actes comme dans ses intentions quand il prétend contrôler la pensée ou l'art. Il y aurait même beaucoup plus de choses à dire en faveur de la force matérielle du public qu'en faveur de l'opinion publique. Le premier peut être raffiné et l'autre doit être imbécile. On dit souvent que la force est un argument, mais cela dépend de ce qu'on cherche à prouver. La plupart des problèmes les plus importants des siècles derniers, comme la durée du gouvernement personnel en Angleterre, celle de la féodalité en France, ont été uniquement résolus par l'emploi de la force matérielle. La violence même d'une révolution peut donner à la foule une grandeur, une splendeur momentanée. C'est plus d'un jour fatal que celui où le public découvrit que la plume l'emporte en puissance sur le pavé, qu'elle est plus dangereuse dans les attaques qu'une brique. Le public alors s'enquit du journaliste, le trouva, le développa, fit de lui un domestique actif et bien payé. C'est fort regrettable pour l'un et pour l'autre. Derrière la barricade, il peut y avoir bien de la noblesse, bien de l'héroïsme. Mais qu'y a-t-il derrière un article de fond? Du préjugé, de la stupidité, du camp, du verbiage. La réunion de ces quatre choses constitue une force terrible et constitue l'autorité nouvelle. Pourtant, jadis, on avait le chevalet de torture. Aujourd'hui, on a la presse. Assurément, c'est un progrès. Mais c'est encore chose mauvaise, nuisible, démoralisante. Quelqu'un, était-ce Burke, a dit que la presse est le quatrième état. Évidemment, c'était vrai alors. Mais à l'heure actuelle, c'est en réalité le seul état. Il a mangé les trois autres. Les lords temporels ne disent rien. Les lords ecclésiastiques n'ont rien à dire. La Chambre des communes n'a rien à dire. Et elle le dit. Nous sommes dominés par le journalisme. En Amérique, le président règne 4 ans. Le journalisme règne à perpétuité. Heureusement, en Amérique, ce journaliste a poussé l'autorité jusqu'aux dernières limites de la grossièreté et de la brutalité. La conséquence naturelle est qu'il s'est développé un esprit de réaction. Les gens s'en divertissent ou en sont dégoûtés, suivant leur tempérament. Mais il n'est plus, comme jadis, une force réelle. On ne le prend pas au sérieux. En Angleterre, à part quelques exceptions bien connues, on n'a point permis à un journaliste de pousser la brutalité jusqu'à de telles limites. Mais il est encore un facteur important, une puissance vraiment remarquable. La tyrannie qu'il prétend exercer sur la vie privée des gens me paraît absolument extraordinaire. Le fait, c'est que le public a une insatiable curiosité de connaître toutes choses, excepté les choses qui valent la peine d'être connues. Le journalisme, qui le sait bien et qui a des habitudes mercantiles, répond à ses demandes. Dans les siècles passés, le public clouait le journaliste par l'oreille aux pompes publiques. C'était affreux. En ce siècle, les journalistes clouent leurs oreilles à tous les trous de serrure. C'est bien pire. Et ce qui aggrave le mal, c'est que les journalistes les plus à blâmer ne sont pas les journalistes amusants, qui écrivent pour les journaux dits mondains. Le mal est fait par des journalistes sérieux, réfléchis, pondérés, qui traînent solennellement, comme ils le font actuellement, sous les yeux du public, quelque incident de la vie passée d'un grand politicien, invitent le public à discuter l'incident, à exercer son autorité dans l'affaire, à donner ses vues, et non seulement à donner ses vues, mais encore à les mettre en action, à imposer à l'homme ses idées sur divers points, à les imposer à son parti, à les imposer au pays, c'est-à-dire en définitive à se rendre ridicule, agressif et malfaisant. On ne devrait point exposer au public l'existence privée des hommes ou des femmes. Le public n'y a rien à voir. En France, on s'y prend mieux. Dans ce pays, on interdit la reproduction par les journaux des détails des procès qui se débattent devant les tribunaux de divorce et qui seraient un objet d'amusement ou de critique pour le public. Tout ce que celui-ci peut savoir se réduit à ceci. Le divorce a été accordé ou non. Il a été au profit de tel ou tel des intéressés. En France, vraiment, on impose des bornes au journalisme, mais on laisse à l'artiste une liberté presque absolue. Chez nous, au contraire, c'est aux journalistes que nous accordons la liberté intégrale, tandis que nous limitons étroitement l'artiste. En d'autres termes, l'opinion publique s'évertue en Angleterre à ligoter, gêner, entraver l'homme qui fait les choses belles, qui les exécute. Mais elle force le journaliste à vendre au détail des objets de nature laide, repoussante, révoltante, si bien que chez nous on trouve les journalistes les plus sérieux et les journaux les plus indécents. Ce n'est point exagéré que de dire « elle force ». Il se peut qu'il y ait des journalistes qui prennent un réel plaisir à publier des choses horribles, ou qui, étant pauvres, considèrent le scandale comme une sorte de base solide pour se faire des rentes. Mais il y a, là, j'en suis certain, d'autres journalistes qui sont des hommes bien élevés, des gens cultivés, qui éprouvent une réelle répugnance à publier de telles choses. Ils savent qu'il est mal d'agir ainsi, et ils le font, parce que l'état de choses malsain au milieu duquel s'exerce leur profession, les oblige à fournir au public ce que le public demande à rivaliser avec d'autres journalistes pour livrer cette marchandise en quantité, en qualité correspondante autant que possible, au grossier appétit des masses. Il est très humiliant pour une classe d'hommes bien élevés de se trouver dans une situation pareille, et je suis convaincu que la plupart d'entre eux en souffrent cruellement. Mais laissons de côté cet aspect véritablement honteux du sujet et revenons à la question de l'influence populaire sur les choses d'art. Je veux dire par là celle où l'on voit l'opinion publique dictant à l'artiste la forme qu'il doit employer, le mode qu'il adoptera, le choix des matériaux qu'il mettra en œuvre. J'ai fait remarquer que les arts qui sont restés les plus indemnes en Angleterre sont les arts auxquels le public ne prenait aucun intérêt. Il s'intéresse néanmoins au drame, et comme en ces 10 ou 15 dernières années, il s'est accompli un certain progrès dans le drame, il est important de rappeler que ce progrès est dû uniquement à ce que quelques artistes originaux se sont refusés à prendre pour guide le défaut de goût du public, se sont refusés à considérer l'art comme une simple affaire d'offres et de demandes. Possédant une vive, une merveilleuse personnalité, un style qui contient une véritable puissance de couleur, et avec cela une extraordinaire faculté non seulement de reproduire les jeux de physionomie, mais encore d'imaginer, de créer par l'intelligence, M. Irving, s'il s'était proposé pour but unique de donner au public ce que celui-ci voulait, il put présenter les pièces les plus banales, de la manière la plus banale, avoir aussi autant de succès, autant d'argent qu'un homme en peut souhaiter, mais il avait d'autre chose en vue. Il voulait réaliser sa propre personnalité en tant qu'artiste, dans des conditions données et dans certaines formes de l'art. Tout d'abord, il fit appel au petit nombre. Maintenant, il a fait l'éducation du grand nombre. Il a créé dans le public à la fois le goût et le tempérament. Le public apprécie immensément son succès artistique. Néanmoins, je me suis souvent demandé si le public comprend que ce succès est entièrement dû au fait qu'Irving a refusé d'accepter son critérium et qu'il y a substitué le sien. Avec le goût du public, le Lyceum eût été une boutique de second ordre, tels que le sont actuellement la plupart des théâtres populaires de Londres. Mais qu'on l'ait compris ou non, un fait reste acquis, que le goût et le tempérament étaient jusqu'à un certain point créés dans le public, que le public est capable de produire ses qualités. Dès lors, le problème se pose ainsi. Pourquoi le public ne se civilise pas davantage? Il en possède la faculté. Mais qu'est-ce qui l'arrête? Ce qui l'arrête, il faut le dire, c'est son désir d'imposer son autorité à l'artiste et aux œuvres d'art. Il est des théâtres comme le Lyceum, comme Haymarket, où le public semble arriver avec des dispositions favorables. Dans ces deux théâtres, il y a eu des artistes originaux qui ont réussi à créer dans leur auditoire, et chaque théâtre de Londres a son auditoire, le tempérament auquel s'adapte l'art. Et qu'est-ce que ce tempérament? C'est un tempérament réceptif, voilà tout. Quand on aborde une œuvre d'art avec le désir, si faible qu'il soit, d'exercer une autorité sur elle et sur l'artiste, on l'aborde dans des positions telles qu'on ne saurait en recevoir la moindre impression artistique. L'œuvre d'art est faite pour s'imposer au spectateur. Le spectateur n'a point à s'imposer à l'œuvre d'art. Le spectateur doit être un récepteur. Il doit être le violon sur lequel jouera le maître. Et mieux, il arrivera à supprimer complètement ses sottes manières de voir, ses sots préjugés, ses idées absurdes sur ce que l'art devrait être ou ne peut pas être. Plus il est probable qu'il comprendra, qu'il appréciera l'œuvre d'art dont il s'agit. Certes, cela est chose évidente quand on parle du public vulgaire, anglais, hommes et femmes qui fréquentent le théâtre. Mais c'est également vrai en ce qui concerne les personnes d'éducation, comme on dit. En effet, les idées que possède sur l'art une personne d'éducation se tirent forcément de ce que l'art a été, tandis que l'œuvre d'art nouvelle est belle parce qu'elle est ce que l'art n'a jamais été. Lui appliquer le passé comme mesure, c'est lui appliquer une mesure dans la suppression à la condition même de sa perfection. Un tempérament capable de recevoir par l'intermédiaire de l'imagination et dans des circonstances dépendant de l'imagination des impressions belles et nouvelles, voilà le seul tempérament capable d'apprécier une œuvre d'art. Et si vrai que cela soit, quand il s'agit d'apprécier de la sculpture ou de la peinture, c'est plus vrai encore pour l'appréciation d'un art tel que le drame. Car un tableau, une statue, ne sont point en guerre avec le temps. Ils n'ont point à tenir compte de sa succession. Il suffit d'un moment pour en apprécier l'unité. Mais pour la littérature, le cas est différent. Il faut parcourir une certaine durée avant que l'unité des faits soit perçue. Aussi, dans le drame, le premier acte de la pièce peut présenter quelques détails dont la réelle valeur artistique ne saurait apparaître au spectateur que quand on sera au troisième ou au quatrième. L'imbécile a-t-il le droit de se fâcher, de se récrier, de troubler la représentation, de tourmenter les acteurs? Non. L'honnête homme attendra en silence. Connaîtra les délicieuses émotions de l'étonnement, de la curiosité, de l'attente. Il n'ira pas au théâtre pour perdre patience, cette chose sans valeur. Il ira au théâtre pour voir se déployer un tempérament artistique. Il ira au théâtre pour se donner un tempérament artistique. Il n'est point l'arbitre d'une œuvre d'art. Il est celui qu'on admet à contempler l'œuvre d'art et qui, si l'œuvre est belle, devra oublier dans la contemplation de celle-ci l'égotisme dont il est atteint, l'égotisme de son ignorance, ou l'égotisme de son état arriéré. Cette caractéristique du drame est, je crois, insuffisamment reconnue. Je puis m'expliquer fort bien que si Macbeth était représenté pour la première fois devant une salle de londoniens modernes, la plus grande partie d'entre eux protesterait de toute leur force, de toute leur énergie, contre l'introduction des sorcières au premier acte, avec leurs phrases grotesques, leurs mots ridicules. Mais quand la pièce tira sa fin, l'on comprend que le rire des sorcières dans Macbeth est aussi terrible que le rire de la folie dans le roi Lear, plus terrible que le rire d'Iago dans la tragédie du Maure. Aucun spectateur d'art n'a plus besoin d'un plus parfait état de réceptivité que le spectateur d'une pièce. Dès le moment où il prétend exercer de l'autorité, il se fait l'ennemi déclaré de l'art et de lui-même. L'art ne s'en soucie guère, c'est l'autre qui en souffre. Pour le roman, c'est la même chose. L'autorité populaire et la soumission à l'autorité populaire sont mortelles. L'Esmond de Thackeray est une belle œuvre d'art, parce qu'il l'a écrite pour son propre plaisir. Mais dans ses autres romans, dans Pendennis, dans Philippe, dans La foire aux vanités même, il regarde un peu trop du côté du public. Il gâte son œuvre en faisant un appel trop direct aux sympathies du public ou en s'en raillant directement. Un véritable artiste ne tient aucun compte du public. Pour lui, le public n'existe pas. Il n'a point sur lui de gâteau à l'opium ou au miel pour endormir ou gaver le monstre. Il laisse cela au romancier populaire. Nous avons actuellement en Angleterre un romancier incomparable, M. George Meredith. Il y en a de meilleurs en France, mais la France n'en possède point, qui ait sur la vie une façon de voir aussi large, aussi variée, aussi vraie dans son caractère créateur. Il y a en Russie des conteurs d'histoire qui ont un sentiment plus vif de ce que peut être la douleur dans un roman. Mais M. Meredith, non seulement ses personnages vivent, mais encore ils vivent dans la pensée. On peut les considérer d'une myriade de points de vue. Ils sont suggestifs. Il y a de l'âme en eux et autour d'eux. Ils sont interprétatifs, symboliques. Et celui qui les a créés, ces figures merveilleuses, aux mouvements si rapides, les a créés pour son propre plaisir. Jamais il n'a demandé au public ce que celui-ci désirait. Jamais il ne s'est préoccupé de le savoir. Jamais il n'a admis le public à lui dicter, à lui imposer quoi que ce soit. Il n'a fait que marcher en avant, intensifiant sa propre personnalité, produisant une œuvre qui était son œuvre individuelle. Dans les débuts, personne ne vint à lui. Cela n'importait point. Puis vint à lui le petit nombre. Cela ne changea pas. Et maintenant, le grand nombre est venu à lui. Il est resté le même. C'est un romancier incomparable. Dans les arts décoratifs, il n'en est pas autrement. Le public se cramponnait avec une ténacité que je pourrais dire touchante aux traditions laissées par la grande exposition de vulgarité internationale. Tradition si effrayante que les maisons où les gens habitaient n'eussent dû avoir pour autres que des aveugles. On se mit à faire de belles choses, de belles couleurs sortir des mains du teinturier, de beaux dessins sortir du cerveau de l'artiste. Il se créa une habitude des belles choses. On y attacha la valeur et l'importance qu'elles méritaient. Le public s'indigna pour tout de bon. Il perdit patience, il dit des sottises. Nul ne s'en soucia, nul ne s'en trouva plus mal. Nul ne se soumit à l'autorité de l'opinion publique. Et maintenant, on ne peut entrer dans une maison moderne qu'on y trouve quelques preuves de docilité au bon goût, quelques preuves du prix qu'on attache au charme du milieu, quelques signes indiquant que la beauté est appréciée. Et réellement, les demeures des gens sont, en règle générale, tout à fait charmantes de nos jours. Les gens se sont civilisés jusqu'à un très haut degré. Il n'est toutefois que trop juste d'ajouter que le succès extraordinaire de la Révolution accompli dans la décoration intérieure, l'ameublement et le reste, n'a pas dû son origine réelle à un développement du très bon goût dans la majorité du public. Elle est due principalement à ce fait que les artisans des choses ont tant apprécié le plaisir de faire ce qui est beau, ont fait apercevoir si crûment la laideur et la vulgarité de ce que voulait le public, qu'ils ont tout simplement réduit le public à l'inanition. Il serait tout à fait impossible présentement de meubler une pièce comme on meublait les pièces il y a peu d'années, à moins d'aller chercher chaque objet l'un après l'autre dans les ventes aux enchères, parmi des soldes qui proviennent d'hôtels meublés de troisième catégorie. Ces choses-là ne se fabriquent plus. Malgré tout ce qu'on pourra leur dire, les gens de nos jours ont une chose charmante, ou une autre, dans ce qui les entoure. Heureusement pour eux, on n'a tenu aucun compte de leur prétention à vouloir faire autorité dans ces choses-là. Il est donc évident qu'en de telles matières, toute autorité est mauvaise. Les gens se demandent parfois quelle forme de gouvernement est la plus avantageuse à l'artiste. Il n'y a à cette riche question qu'une réponse. La forme de gouvernement la plus avantageuse à l'artiste, c'est l'absence totale de gouvernement. Il est ridicule qu'une autorité s'exerce sur lui et sur son art. Il a été affirmé que, sous le despotisme, des artistes ont fait des choses charmantes. Cela n'est pas tout à fait vrai. Des artistes ont rendu visite à des despotes, non point pour se soumettre à leur tyrannie, mais en créateurs de merveilles ambulantes, à titre de personnalités vagabondes et fascinantes, qu'il fallait amuser, charmer et laisser tranquille, tout entier à la liberté de créer. Dès qu'on peut dire en faveur du despote, c'est qu'étant un individu, il peut avoir de la culture, tandis que la populace, étant un monstre, n'en a point. L'homme qui est un empereur ou un roi peut se baisser pour ramasser le pinceau d'un peintre, mais quand la démocratie se baisse, ce n'est jamais que pour lancer de la boue. Et pourtant, la démocratie n'est pas forcée de se baisser aussi bas que l'empereur. Et même quand elle veut jeter de la boue, elle n'a pas du tout à se baisser. Toutefois, il est aucunement nécessaire de distinguer entre monarque et populace. Toute autorité est également mauvaise. Il y a trois sortes de despotes. Il y a le despote qui tyrannise les corps. Il y a le despote qui tyrannise les âmes. Il y a le despote qui exerce sa tyrannie sur les uns et les autres. On donne au premier le nom de prince, au second le nom de pape, au troisième le nom de peuple. Le prince peut être cultivé. Beaucoup de princes l'ont été. Cependant, le prince offre quelques dangers. Qu'on se souvienne de Dante dans l'amertume de la fête de Vérone et du Tasse dans un cabanon fou à Ferrare. Il est préférable pour l'artiste de ne point vivre avec le prince. Le pape peut être cultivé. Beaucoup de papes l'ont été. Les mauvais papes l'ont été. Les mauvais papes aimaient la beauté. Ils y mettaient presque autant de passion, plutôt autant de passion que les bons papes en montraient avec leur haine de la pensée. L'humanité doit beaucoup à la scélératesse de la papauté. La bonté de la papauté doit un compte terrible à l'humanité. Néanmoins, bien que la papauté ait gardé sa rhétorique tonitruante et perdu la baguette conductrice de sa foudre, il vaut mieux que l'artiste ne vive point avec les papes. C'est un pape qui dit de Cellini en plein conclave de cardinaux que les lois faites pour tout le monde, l'autorité faite pour tout le monde, n'était point faite pour des hommes tels que lui. Mais ce fut un pape qui jeta de Cellini en prison, dit-il jusqu'à ce qu'il devint malade de rage, si bien qu'il finit par se créer à lui-même des visions imaginaires, qu'il vit le soleil entrer tout doré dans sa chambre, et en devint si amoureux qu'il voulut s'échapper, qu'il rampa de tour en tour, que l'air de l'aube lui donna le vertige, qu'il tomba, s'estropia, fut couvert de feuilles de vigne par un vigneron, et transporté dans une charrette auprès d'un homme qui, épris de belles choses, eut soin de lui. Mais il y a du danger auprès des papes. Quant au peuple, que dire de lui et de son autorité? On a peut-être assez parlé de lui et de son autorité. Son autorité est chose aveugle, sourde, hideuse, grotesque, tragique, amusante, sérieuse et obscène. Il est impossible à l'artiste de vivre avec le peuple. Tous les despotes vous achètent. Le peuple vous achète et vous abrutit. Qui lui a parlé d'exercer une autorité? Il a été fait pour vivre, pour écouter, pour aimer. On lui a causé un grand dommage. Le peuple s'est défiguré par l'imitation de ses inférieurs. Il a arraché le sceptre au prince. Comment le manierait-il? Il a pris au pape sa triple couronne, mais comment porterait-il ce fardeau? C'est un clown qui a le cœur brisé, c'est un prêtre dont l'âme n'est pas née encore, que tous les amants de la beauté le prennent en pitié, que le peuple, bien qu'il n'aime pas la beauté, s'apitoie sur lui-même. Qui lui a donc appris les ruses de la tyrannie? Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait signaler. On pourrait signaler combien la Renaissance fut grande parce qu'elle n'entreprit de résoudre aucun problème social, mais qu'elle laissa l'individu se développer dans sa liberté, dans sa beauté, dans son naturel, et eut aussi de grands artistes originaux, de grands hommes originaux. On pourrait faire remarquer que Louis XIV, par la création de l'État moderne, détruisit l'individualisme de l'artiste, fit des choses monstrueuses dans leur monotone répétition, méprisables dans leur asservissement à la règle, et fit disparaître dans toute la France ces belles libertés d'expression qui avaient donné à la tradition le charme de la nouveauté et créé des modes nouveaux avec des formes antiques. Mais le passé n'est d'aucune importance, le présent n'est d'aucune importance, c'est avec l'avenir que nous devons compter. Car le passé, c'est ce qu'un homme n'aurait point dû avoir été. Le présent, c'est ce que l'homme ne devrait point être. L'avenir, c'est ce que sont les artistes. On ne manquera pas de dire qu'un plan tel que celui-ci est absolument impraticable et qu'il est en opposition avec la nature humaine. Oui, cela est parfaitement vrai. Il est impraticable et il tend à l'opposé de la nature humaine. C'est pourquoi il vaut la peine d'être mis à exécution, et c'est pourquoi on le propose. Car qu'est-ce qu'un plan praticable? Un plan praticable, c'est un plan qui existe déjà ou qui peut être mis à exécution dans des conditions qui existent déjà. Or, c'est précisément à ces conditions déjà existantes que nous en voulons. Et tout plan qui compromettrait ces conditions est vicieux, est absurde. Qu'on le débarrasse des conditions et la nature humaine changera. Tout ce qu'on sait de vraiment certain sur la nature humaine, c'est qu'elle change. Le changement est le seul attribut que nous puissions lui attacher. Les systèmes qui échouent, ce sont les systèmes fondés sur l'immutabilité de la nature humaine et non sur sa croissance et son développement. L'erreur de Louis XIV consistait à croire que la nature humaine serait toujours la même. La conséquence de son erreur a été la Révolution française. Ce résultat était admirable. Rien de plus admirable que les résultats produits par les méprises des gouvernements. Il est à remarquer en outre que l'individualisme ne se présente pas à l'homme avec de géniantes tirades sur le devoir, qui consiste tout simplement en ceci, qu'on fait ce que veulent les autres, parce qu'ils ont besoin qu'on le fasse. Il dispense généralement de tout cet affreux jargon de sacrifice de soi qui n'est en somme qu'un lait des temps de sauvagerie, où l'on se mutilait. En réalité, il se présente à l'homme sans faire valoir aucune légende sur lui. Il sort naturellement, inévitablement de l'homme. C'est le point vers lequel tout tend tout développement. C'est l'état hétérogène auquel aboutit la croissance de tout organisme. C'est la perfection inhérente à tout mode de vie, et vers laquelle tout mode de vie tend d'une vitesse accélérée. Aussi l'individualisme n'exerce-t-il aucune contrainte sur l'homme. Loin de là, il dit à l'homme qu'il ne doit se laisser imposer aucune contrainte. Il ne s'évertue pas à forcer les gens d'être bons. Il fait que les hommes sont bons quand on leur laisse la paix. L'homme tirera l'individualisme de lui-même. C'est ainsi que l'homme développe actuellement l'individualisme. Quand on demande si l'individualisme est praticable, c'est comme quand on demande si l'évolution est praticable. L'évolution est la loi de la vie, et il ne s'accomplit d'évolution que dans le sens de l'individualisme. Lorsque cette tendance ne se manifeste pas, c'est qu'on a affaire à un cas d'arrêt artificiel de développement, à un cas de maladie, à un cas mortel. L'individualisme sera aussi dépourvu d'égoïsme et d'affection. On a déjà fait remarquer que l'un des résultats de l'extraordinaire tyrannie qu'exerce l'autorité consiste en ce que les mots sont violemment détournés de leur sens propre et simple, et employés de façon à exprimer le contraire de leur signification naturelle. Ce qui est vrai pour l'art est vrai pour la vie. De nos jours, on dit qu'un homme est affecté quand il s'habille comme il lui plaît. Mais c'est justement en agissant ainsi qu'il se montre dans tout son naturel. Sur ces points-là, l'affectation consiste à s'habiller conformément à la manière de voir des autres, manière de voir qui a bien des chances d'être tout à fait stupide, étant celle de la majorité. On dira encore d'un homme qui est égoïste parce qu'il vit à la façon qui lui plairait la plus favorable au développement complet de sa personnalité, lorsqu'il donne pour but essentiel à sa vie ce développement. Mais c'est de cette façon-là que tout le monde devrait vivre. L'égoïsme consiste point à vivre comme on le veut, mais à demander que les autres conforment leur genre de vie à celui qu'on veut suivre. Le défaut d'égoïsme consiste à laisser les autres vivre à leur gré, sans se mêler de leur existence. L'homme sans égoïsme sera enchanté de voir autour de lui une infinie variété de types. Il s'en accommode, il ne demande pas mieux, il y prend plaisir. Un homme qui ne pense point à soi ne pense point du tout. C'est faire preuve d'un grossier égoïsme d'exiger de votre voisin qu'il pense comme vous, qu'il ait les mêmes opinions. Et pourquoi le ferait-il? S'il pense, il est très probable qu'il pensera autrement que vous. Et s'il ne pense point, c'est monstrueux d'exiger de lui une pensée quelconque. Une rose rouge n'est point égoïste parce qu'elle veut être une rose rouge. Elle serait d'un égoïsme horrible si elle prétendait que toutes les autres fleurs du jardin fussent des roses et de couleur rouge. Sous l'individualisme, les gens seront parfaitement naturels, absolument dépourvus d'égoïsme. Ils connaîtront le sens des mots et ils l'exprimeront dans la liberté et la beauté de leurs existences. Les hommes ne seront pas non plus égoïstes comme de nos jours, car l'égotiste est celui qui prétend avoir des droits sur les autres. L'individualisme désirera rien de tel. Il n'y saurait trouver aucun plaisir. Quand l'homme aura compris l'individualisme, il comprendra également la sympathie et l'exercera librement, spontanément. Jusqu'à présent, l'homme n'a guère cultivé la sympathie. Il n'a de sympathie que pour la douleur. Et la sympathie pour la douleur n'est pas la forme la plus élevée des sympathies. Toute sympathie est un raffinement. Mais la sympathie avec la souffrance est le moindre des raffinements. Elle est troublée d'égoïdisme. Elle est apte à devenir maladive. Il y entre une certaine dose de terreur au sujet de notre propre sécurité. Nous nous laissons aller à la crainte de devenir pareil aux lépreux ou à l'aveugle et d'être privés de tout soin. En outre, elle nous rétrécit d'une façon curieuse. On devrait avoir de la sympathie pour la vie dans sa totalité et non pas seulement pour les fléaux et les maladies de la vie. On devrait en avoir pour la joie, la beauté, l'énergie, la santé, la liberté de la vie. Naturellement, à mesure qu'elle s'élargit, la sympathie devient plus difficile. Elle demande qu'on soit encore moins égoïste. Chacun peut sympathiser avec les souffrances d'un ami, mais il faut être d'une nature bien pure, en somme, d'une nature vraiment individualiste, pour sympathiser avec la fortune d'un ami. Dans la cohue et la lutte entre concurrents pour les places, une telle sympathie est évidemment rare et en même temps très comprimée par l'idée immorale de l'uniformité typique de la soumission à la règle, chose si universellement prédominante et qui en Angleterre ont acquis le plus d'influence nuisible. De la sympathie pour la douleur, il est certain qu'il y en aura toujours. C'est là un des premiers instincts de l'homme. Les animaux qui ont dans l'individualité, je veux dire les animaux supérieurs, ont ce trait commun avec nous. Mais il est bon de se rappeler que si la sympathie avec la joie augmente la somme de joie qui existe dans le monde, la sympathie avec la douleur ne saurait diminuer la somme de la douleur. Elle rend l'homme plus capable d'endurer le mal, mais le mal persiste. La sympathie avec la consomption ne guérit pas la consomption, mais la science la guérit. Et quand le socialisme aura résolu le problème de la pauvreté, que la science aura résolu le problème de la maladie, le domaine des sentimentalistes se rétrécira et la sympathie de l'homme sera large, saine et spontanée. On aura de la joie à contempler la vie joyeuse des autres. Car c'est grâce à la joie que l'individualisme de l'avenir se développera. Le Christ n'a fait aucune tentative pour reconstruire la société. En conséquence, l'individualisme qu'il prêchait à l'homme ne pouvait être réalisé qu'en passant par la douleur ou dans la solitude. Les idéaux que nous devons au Christ sont ceux de l'homme qui abandonne entièrement la société ou de l'homme qui se refuse absolument à la société. Mais l'homme est sociable par nature. La Thébaïde elle-même finit par se peupler. Et bien que le cénobite réalise sa personnalité, celle qu'il réalise ainsi est souvent une personnalité appauvrie. D'autre part, cette vérité terrible que la douleur est un mode par lequel l'homme peut se réaliser a exercé sur le monde une extraordinaire fascination. Des parleurs superficiels, des penseurs superficiels, dans les chairs et à la tribune, déclament sur l'amour du monde pour le plaisir et gênent contre ce fait. Mais il est rare de trouver dans l'histoire du monde qui se soit donné pour idéal la joie et la beauté. Le culte qui a le plus dominé le monde, c'est celui de la souffrance. Le Moyen-Âge, avec ses saints et ses martyrs, son amour de la souffrance cherchée, sa furieuse passion de se faire des blessures, de s'en tailler avec des couteaux, de se déchirer à coups de verge. Le Moyen-Âge, c'est le vrai christianisme, et le Christ médiéval, c'est le Christ véritable. Quand l'aube de la Renaissance parut sur le monde, et qu'elle lui offrit des idéaux nouveaux de beauté dans la vie et de la joie de vivre, les hommes cessèrent de comprendre le Christ. L'art lui-même nous le montre. Les peintres de la Renaissance représentent le Christ comme un enfant qui joue avec un autre enfant dans un palais d'un jardin, ou se renversant dans les bras de sa mère pour lui sourire, pour sourire à une fleur, à un brillant oiseau, ou bien encore comme une noble et imposante figure qui parcourt majestueusement le monde, ou comme un personnage surnaturel qui, dans une sorte de cage, surgit de la mort dans la vie. Même quand il le peigne crucifié, il le représente comme un dieu de beauté auquel de méchants hommes ont infligé la souffrance. Mais il ne les absorbait pas beaucoup. Ce qu'il représentait avec plaisir, c'était les hommes et les femmes qu'ils admiraient. Il se plaisait à montrer tout le charme de ce globe enchanteur. Ils firent beaucoup le tableau religieux, et même ils en firent beaucoup trop. La monotonie du type et du sujet est chose fatigante. Elle nuit à l'art. Elle est imputable à l'autorité que le public exerçait dans les choses d'art, et on doit le déplorer. Mais ils ne mettaient point leur âme dans le sujet. Raphaël fut un grand artiste quand il fit le portrait du pape. Lorsqu'il peignait ses madones et ses Christs enfants, il n'était plus du tout un grand artiste. Le Christ n'avait rien à dire à la Renaissance. Elle était merveilleuse parce qu'elle apportait un idéal différent du sien. Aussi devons-nous recourir à l'art médiéval pour trouver la représentation du véritable Christ. Il y figure comme un homme mutilé et abîmé de coups, un homme sur lequel les regards n'ont point de plaisir à se porter, parce que la beauté est une joie, un homme qui n'est point vêtu richement, parce que là aussi, c'est une joie. C'est un mendiant qui a une âme admirable, c'est un lépreux dont l'âme est divine. Il ne lui faut ni propriété ni santé, c'est un dieu qui atteint à la perfection par la souffrance. L'évolution de l'homme est lente, l'injustice des hommes est grande. Il était nécessaire que la douleur fût mise au premier rang, comme mode de réalisation de soi-même. De nos jours encore, la mission du Christ est nécessaire. Personne dans la Russie moderne n'eût pu réaliser sa perfection autrement que par la souffrance. Un petit nombre d'artistes russes se sont individualisés dans l'art, dans une fiction qui est médiévale par le caractère, parce que la note qui y domine, c'est le développement des hommes grâce à la souffrance. Mais pour ceux qui ne sont pas des artistes, et pour lesquels il n'y a pas d'autre genre de vie que celui de la réalité, la douleur est la seule porte qui s'ouvre vers la perfection. Un Russe qui se trouve heureux sous le système actuel de gouvernement qui règne en Russie doit croire, ou bien que l'homme n'a pas d'âme, ou bien que s'il en a une, elle ne vaut pas la peine d'évoluer. Un nihiliste qui rejette toute autorité parce qu'il sait que toute autorité est mauvaise et qui fait bon accueil à la souffrance parce que grâce à elle il réalise sa personnalité, c'est un véritable chrétien. Pour lui, l'idéal chrétien est une vérité. Et pourtant, le Christ ne se révolta point contre les autorités. Il reconnaissait l'autorité de l'empereur dans l'Empire romain et lui payait tribut. Il subordait l'autorité spirituelle de l'Église juive et se refusait à repousser la violence par la violence. Comme je l'ai dit plus haut, il n'avait aucun plan pour la reconstruction de la société. Mais le monde moderne a des plans. Il compte en finir avec la pauvreté et les souffrances qu'elle amène. Il espère en finir avec la douleur et les maux qu'elle amène la douleur. Il s'en rapporte au socialisme et à la science. Il compte sur leur méthode. Le but auquel il tend, c'est un individualisme s'exprimant par la joie. Cet individualisme sera plus large, plus complet, plus attrayant que n'aura jamais été aucun individualisme. La douleur n'est point le but ultime de la perfection. Ce n'est qu'une chose provisoire, une protestation. Elle ne vise que les milieux mauvais, insalubres, injustes. Quand le mal, la maladie, l'injustice auront été écartées, elle cessera d'avoir une place. Elle aura accompli sa tâche. Ce fut une tâche considérable. Mais elle est presque entièrement achevée et sa sphère diminue de jour en jour. Et l'homme ne manquera pas de s'en apercevoir. En effet, ce qu'a cherché l'homme, c'est non pas la souffrance ni le plaisir, c'est simplement la vie. L'homme s'est efforcé de vivre d'une manière intense, complète, parfaite. Quand il pourra le faire sans imposer de contraintes à autrui, sans jamais en subir, quand toutes ses facultés actives lui seront d'un exercice agréable, il sera plus sain, plus vigoureux, plus civilisé, plus lui-même. Le plaisir est la pierre de touche de la nature, son signe d'approbation. Lorsque l'homme est heureux, il est en harmonie avec lui-même, et avec ce qui l'entoure. Le nouvel individualisme auquel travaille, qu'il le veuille ou non, le socialisme, sera l'harmonie parfaite. Il sera ce que les Grecs ont poursuivi, mais n'ont pas pu atteindre que dans le domaine de la pensée, parce qu'ils avaient des esclaves et les nourrissaient. il saura ce que la Renaissance a cherché, mais n'a pu réaliser complètement que dans l'art, parce qu'on y avait des esclaves et qu'on les laissait mourir de faim. Il sera complet et par lui, tout l'homme arrivera à sa perfection. Le nouvel individualisme et le nouvel hellénisme.